proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir l'écrivain Shmuel Temeyer, qui vient nous parler de son coffret « Et la guerre est finie », qui vient de paraître aux éditions Métropolis. Bonsoir Shmuel.
Bonsoir Sandrine.
Alors, comme votre parcours fait de détours par la France, la Suisse, la Grande-Bretagne, l'Italie ou Israël, vos écrits nous font voyager de par le monde. Journaliste, traducteur, romancier, essayiste, poète, vous êtes l'auteur d'une œuvre riche dont la particularité est d'allier un style littéraire soigné et recherché à la précision des descriptions et au sens du détail. À vous lire, on s'y croirait, hein, voyageant dans le Grand Express, cueillant les oranges dans un kibboutz ou étudiant dans une université américaine. Et aujourd'hui, vous êtes posé entre Haïfa et Genève, mais le voyage est toujours inscrit dans l'âme de vos ouvrages. Votre actualité, c'est donc la parution d'une trilogie de 3 recueils de nouvelles présentées dans un coffret. Eh bien, votre actualité n'élude pas la géographie. L'Europe, Israël et New York sont les décors de vos récits théâtraux. 3 recueils donc et 3 titres. Les Grands Express Européens, Kibbutz, The Great American Disaster et un point commun au moins, les scènes de vie que vous dépeignez ont lieu après la guerre. Alors d'abord, j'aimerais vous féliciter hein, puisque vous êtes lauréat du prix Goncourt de la Nouvelle 2021. Quelle impression ça fait ?
Quelle impression, d'abord une énorme surprise. D'ailleurs, je me trouvais en Israël, j'étais tellement pas préparé à ça que, après la parution du livre, j'ai décidé, dès que j'ai eu la possibilité avec l'ouverture des frontières, de partir en Israël. Donc, j'étais très loin de supposer que ça pouvait m'arriver. Et ben, on prend ça, je sais pas, pour quelqu'un qui s'est un peu comme moi spécialisé dans l'écriture de la nouvelle, bien que j'ai écrit quand même 2 romans. Je veux dire, bon, c'est un peu le Graal, quoi. Je veux dire, c'est inespéré.
En tout cas, c'est bien mérité. Déjà, comment est née l'idée de ce coffret ?
Alors, c'est toujours un peu particulier. Ça dépend de comment on écrit, mais j'étais sur l'écriture d'un roman, et quand l'imagination, quand ça s'épuise un petit peu, parce que le roman, c'est un marathon pour moi. Comme je suis, il me faut écrire. C'est mon job. Donc, je passe rapidement aux nouvelles. Je change de style et puis en plus de ça, ça me permet la nouvelle de m'inscrire dans des paysages, des décors, des époques que je choisis avec précision parce que c'est ça mon plaisir d'écrire au fond, c'est ça.
Alors,
donc d'être là où je ne suis pas, où je suis. Ne pas être là où je suis, justement. Essayer de dépasser les frontières, de l'imagination, de me trouver à New York ou quand je suis à Paris, d'être à Tel Aviv. Et c'est mes voyages et c'est mon grand plaisir à moi de me déplacer comme ça à travers l'écriture.
Alors donc c'est ça qui vous séduit hein, dans l'écriture de nouvelles plutôt que du roman, c'est l'art de pouvoir voyager.
Il y a ça, c'est vrai que c'est consacré, souvent j'ai consacré à une géographie, ça c'est sûr, Israël en particulier, pour le début de mon travail. Maintenant j'explore un peu tous les univers, l'Europe. Bon, ce qui me semblait à ce moment-là, c'est comme j'écrivais ça un peu comme on fait une challah de Shabbat. Vous voyez, on prend 2 morceaux de pâte, on en met un au milieu aussi, et puis on commence à tresser. Alors, on rajoute, on enlève, on essaie de faire la tresse la plus jolie, et on se rend compte que ça fait une unité tout en étant 3 morceaux de pâte bien différents. Donc, il y en a un qui se trouve en Europe. Enfin, la cohésion, la cohérence, disons, elle vient de ce que tout se situe après une guerre. Soit la guerre d'indépendance en Israël, soit la Seconde Guerre mondiale pour l'Europe. Et pour ce qui concerne New York, les États-Unis, mais plus particulièrement New York, puisqu'on est au maximum, on va dans le New Jersey, ça concerne la période allant de 1953 à 1973, c'est-à-dire entre la guerre de Corée et la fin de la guerre du Vietnam.
Voilà, donc il y a une cohérence dans les opus, mais en même temps dans les histoires. Parfois, il y a des liens qui se retrouvent à la fin de chacun des récits.
Ben oui, surtout en particulier pour 2 des 3 recueils, les Grands Express, puisqu'au fond la trame c'est la traversée de ce train dans cet hiver glacial de 1953, de ce train magique, à la fois luxueux et beau dans cette Europe misérable qui se relève difficilement de la guerre, Et donc ce luxe qui passe à travers ces banlieues industrielles. Et là, les gens qui sont dans ce wagon, dans ces trains de luxe, qui traversent l'Europe de Venise à Londres, ils sont les témoins d'un drame social. Et tous vont transporter ça. Donc on va passer de passager en passager, on va les retrouver. Chaque passager me permet d'accoucher d'un autre personnage. En fait, c'est... Excusez-moi pour le bruit de fond.
C'est pas grave.
Ouais, c'est le bruit de fond de Tel Aviv.
Alors, on va tout dire. Voilà, vous n'êtes pas dans nos studios ici à Paris, mais vous êtes là où vous habitez actuellement. Vous êtes en Israël.
Oui, je suis en Israël. Bientôt de retour en Europe, puisque le fait d'avoir reçu le prix Goncourt m'impose un certain nombre de choses. Oui. Donc, je vais revenir en Europe plus tôt que prévu, à la fin de la semaine d'ailleurs. Et donc quitter le beau temps, mais bon, ça sera avec plaisir de rencontrer les lecteurs, de rencontrer de nouveau une Europe qui sort du corona, ça va me faire du bien.
Oui, ça va beaucoup mieux. Alors justement, vos nouvelles d'Israël, eh bien on a l'impression, et surtout les premières, qu'elles ont un rythme plus rapide que celles d'Europe ou des États-Unis. Est-ce que c'est un choix délibéré ou c'est le hasard?
Israël, c'est un peu différent. Parce que Israël, j'y mêle à la fois même dans l'écriture, je pense qu'elle est plus poétique. Elle est. J'ai tenté quand même de trouver des styles qui correspondaient à. Parce que quand je crée une nouvelle, d'abord je fais comme un peintre. Je me donne un décor. Il est souvent impressionniste, c'est-à-dire de loin il semble bien très clair, mais de près on voit qu'il est fait de taches. Et bon, je choisis une époque, évidemment, en plus de ça, souvent la plus éloignée possible de l'époque moderne, parce que je ne suis pas tellement fait pour le 21e siècle. Je suis vraiment nourri de la culture du 20e siècle. Je suis un enfant du 20e siècle et j'y suis resté un peu coincé. Et donc, je choisis donc une époque, et là-dedans, je mets mes personnages. C'est plus comme une toile, ça marche plus comme une toile que ça fonctionne comme du cinéma. Je veux dire, je suis avare en dialogue, j'aime pas trop psychologiser mes personnages, je préfère qu'on comprenne les sentiments qui les traversent par l'observation, par une gestuelle, par le rythme de leurs pas, leur silhouette. Et c'est comme ça que j'essaie de peindre une société, surtout des hommes et des femmes qui traversent une crise monumentale. C'est-à-dire, après ces guerres-là, on a le droit de se dire, bon, la guerre est finie. Et tout à coup, ils vont découvrir les uns après les autres que non seulement les guerres ne sont pas finies parce qu'on leur en imposera encore d'autres, mais en plus de ça, ils ont leur propre guerre intérieure. Donc, toute cette période qui correspond un peu aux Trente Glorieuses de l'immédiate après la Seconde Guerre mondiale et que l'Occident a connue, j'essaie d'en montrer les failles idéologiques, et puis bon, toujours moi ce qui m'intéresse c'est les personnages, donc c'est des gens comme vous et moi, c'est des gens qui traversent une vie normale, et bah, la vie, comme on dit en hébreu, elle est au pluriel, elle est toujours au pluriel, on a des vies. Et tout à coup, c'est ce moment de rupture que je cherche.
Alors justement, pour que les auditrices et les auditeurs de la Fréquence Juive puissent se rendre compte de votre écriture, je vais me permettre de lire une de vos nouvelles, donc dans ce recueil Kibbutz consacré à Israël, qui s'appelle Kikar Dizengoff. Je vous lis donc. « J'étais un gamin du Kibbutz, un sandal short aux genoux couronnés, un gosse de tôle ondulée, de carcasses de Massé Ferguson rouillées, d'oranges arrachées et de plumes de poulet. Je fumais, derrière le garage de Moti, des noblesses, entre pouce et index, sans cligner des yeux. Le jour, je haïssais Meir, qui possédait Tamar, la nuit, c'est moi qu'elle rejoignait dans mes songes craintifs. Je me dessinais des blessures de héros à l'épaule. J'étais le fils d'une tombe blanche à deux pas du verger. Je connaissais la falcha de Yad Hana, ces nuages de coton brûlé par le Khamsin, le filet d'eau tranquille et vert du Nahal Nablus, le chemin de poussière qui menait entre ronces et crachats d'âne à l'orangerie d'Abou Moussa et sa cabane en parpaing. J'étais un morveux du kibbutz, un chemise blanche du Shabbat, au godillot ciré, lorsque Tamar m'attabla à la terrasse du Kassit pour dévorer un strudel au pavot. Elle me tint la main pour traverser le Kikar à Médina, du bassin et de sa fraîcheur fangeuse montée crépusculaire, les coassements des crapauds. J'étais un héros du kibbutz qui triomphait de Tel Aviv le 10 juin 52 lorsqu'elle m'embrassait. » Alors là, la date est un petit peu précoce, hein, mais on a l'impression dans ce recueil Israël notamment qu'il y a, on sent qu'il y a quelque chose de vous aussi personnel. Est-ce que c'est votre recueil qui est le plus proche de votre itinéraire ?
Certainement, parce que c'est une tranche énorme de mon existence. Je veux dire, l'essentiel de mon existence, elle s'est passée en Israël. L'expérience du kibbutz, c'était au fond l'avènement d'un rêve d'enfant et d'adolescent, une recherche comme ça d'un socialisme à visage humain, d'une fraternité. C'était vraiment un rêve. Je veux dire, je m'endormais pas le soir sans m'imaginer. Quand j'étais gosse, je rappelais récemment que le livre que mon père m'avait fait lire en premier, c'était La Tour d'Ezra de Kessler. Et après, je m'étais perdu dans les histoires de Meir Levin et de la création des kibbutz, de Dgania Aleph. Pour moi, c'était une sorte de rêve. Et donc, évidemment, je m'investis plus à l'intérieur. C'est aussi certainement peut-être plus pessimiste parce que je suis arrivé justement à. J'ai connu les derniers sursauts du kibbutz et du socialisme à visage humain pour voir le kibbutz basculer dans une ère nouvelle qui me touche beaucoup moins, quoi. Je veux dire, en fait, je suis mélancolique d'une époque, voilà, c'est tout. Et donc, évidemment, c'est sûr que je suis plus à l'intérieur de kibbutz. Ça me parle plus à mon âme, ça c'est certain.
Alors, il ne faudrait pas donner l'impression qu'il n'y a que de la géographie. Hein. Il y a ça, mais il y a aussi ces nouvelles qui sont surtout liées par les histoires de vie. Tous vos récits sont habités par les âmes de ceux que vous croquez avec une précision au scalpel. Et souvent, vous venez de le dire, les choses finissent mal. Pourquoi ce choix mélancolique ou pessimiste ?
Je ne sais pas, je crois des fois, c'est la fatalité de l'écriture. C'est que... bon, des fois, il y a des personnages récurrents qui reviennent, qu'on croise, parce que j'ai du mal à me détacher d'eux. Mais je pense qu'en fait, d'ailleurs, toute la question, en fait, elle est posée un petit peu dans la dernière des nouvelles des grands express européens, dans la rencontre entre Magdalena M., une écrivaine tchèque, qui se trouve chez Albert Camus. Au fond, Albert Camus lui demande. Et Albert Kosri, puisqu'elle rencontre les deux Albert du même coup, c'est extraordinaire d'écrire ça et de pouvoir être à table avec eux. Et au fond, on lui conseille d'abandonner le drame pour la tragédie, c'est-à-dire descendre vers le sud. Et je conçois dans toute cette période que bon, il y a quand même des nouvelles qui sont heureuses. Il y a des nouvelles qui se terminent bien, heureusement. Mais oui, il y a le tragique de la vie. Oui, je pense que les gens sont confrontés au tragique et que ça ne sert pas à grand-chose de nous le cacher. Ça fait aussi sa grandeur, ça fait aussi la grandeur de l'homme, sa capacité à affronter le tragique, sa capacité à affronter le destin qu'on est censé avoir, la providence. J'avais intitulé un de mes bouquins « Un passe de la Providence ». Voilà, c'est ça, des gens qui se battent contre la Providence. Et souvent, ça rejoint le tragique, voilà.
Alors, donc, il y a au moins deux choses qui sautent à l'esprit quand on vous lit. Eh bien, c'est ce prix Goncourt bien mérité de la nouvelle avec une écriture ciselée presque parfaite. Et puis, ce souci du détail, vraiment une documentation extrêmement minutieuse, méticuleuse. Est-ce que vous avez voyagé dans toutes les destinations que vous décrivez ?
Alors, oui, alors il y a une exception, mais ça appartient à un autre roman. C'était Le Caire que je me suis inventé en étant aveugle. Parce que comme je n'étais jamais allé au Caire, c'était un de mes grands regrets, j'avais écrit une nouvelle entièrement comme si j'étais un enfant aveugle dans le Caire. Mais oui, non, c'est des destinations que je connais. Pas pour y avoir vécu, hein, des fois seulement en touriste, hein, oui. mais disons que bon, je mets l'accent quand même sur des pays que je connais bien, et puis des pays qui m'habitent en plus, parce que je crois qu'on se tromperait en pensant qu'on n'est pas tous, par exemple, habités. J'y songe parce qu'en ce moment je travaille sur un livre qui parle de la révolution russe, et je suis jamais allé en Russie. Donc non seulement je me transpose en 1919, mais en plus de ça, dans un pays que... Mais tout à coup, je me suis rendu compte que j'étais habité par la Russie. Est-ce que j'ai besoin d'aller en Russie pour savoir ce que c'est ? Mais j'ai lu Tolstoï, j'ai lu Dostoïevski, Gogol, Pouchkine, Ivan Nikitin, un ami. J'ai l'impression que la Russie est en moi, comme l'Amérique est en nous depuis maintenant 70 ans. Je veux dire, je ne pense pas qu'il y ait un Européen qui ne sache pas ce que c'est que l'Amérique. Je veux dire, on est habité par des pays que des fois, dans lesquels on n'habite pas.
Il y a aussi l'Italie, il y a Venise, par exemple, que vous décrivez parfaitement.
Ouais, non, mais ça, c'est des endroits où j'ai vécu, c'est des endroits où il y a un attachement viscéral. Quand je me promène dans Rome avec la poétesse Bassano, Clara Bassano, je me promène pieds nus avec elle dans les rues de Rome. Je connais le trajet, je ferme les yeux et je peux même me souvenir des odeurs de il y a 40 ans. Quand on se promenait dans les rues, il y avait cette odeur de charcuterie, de provolone. Et maintenant, tout est aseptisé, avec air climatisé, donc on ne sent plus tout à fait la même chose. C'était une grande tristesse, d'ailleurs, mon dernier voyage à Rome, parce que toutes ces odeurs avaient disparu.
Alors, vous parlez d'odeurs, mais il y a, comme vous disiez tout à l'heure aussi, eh bien, ce que l'on voit, une sorte de vision quasiment picturale dans votre écriture. Et j'aimerais citer un passage de la nouvelle « Les grands express européens », c'est l'incipit, hein, c'est le premier recueil. Alors, je vous lis. Elle épousa le premier venu, le premier qui s'avisa de lui promettre de la protéger. C'était un drôle de type, avec des dents de cheval plantées dans la chair rubiconde de ses gencives et des yeux plongés si profondément dans leurs orbites qu'on eût dit des agates dans une flaque d'eau. Ses pommettes saillantes étaient marquées par la pointe aiguë de ses favoris qu'il laissait courir au-delà des maxillaires, de telle sorte qu'ils enveloppaient presque le lobe de ses oreilles. Elle avait minutieusement constaté que ce visage, celui de son époux, possédait déjà les aspérités précurseurs de son squelette. Comme elle ne connaissait que peu de choses de la chimie des corps, elle n'éprouva à son égard ni répulsion ni envie, aucun de ces jugements intempestifs qui provoquent soit le dégoût, soit l'attirance. Et c'est fabuleux parce qu'on commence comme ça et on a tous en tête, en tant que lecteur ou lectrice, eh bien ce portrait de personnage.
Ouais, c'est important. Hein. Un début de nouvelle. L'intérêt d'une nouvelle, c'est qu'on ne peut pas stopper, je veux dire. C'est que mon état. Soma Morgenstern disait, il est bien rare les grands romans dont on ne peut pas arracher 50 pages. Bon, il disait quand même que chez Thomas Mann c'était impossible et chez Tolstoy aussi. Bon voilà, dans une nouvelle, si on arrache 50 pages, on a tout arraché quoi. Dire, on peut pas être s'étendre et perdre son temps à. Alors, si je veux donner une description. Il faut que je sois dans la précision. J'aime pas cette expression scalpel à l'os. Ça, c'est une expression un peu toute faite, mais voilà, il faut vraiment enlever tout ce qui est gras, tout ce qui va desservir, tout ce qui va allonger un texte inutilement. Voilà, on a compris. Elle a compris. Elle dévisage son mari. Et d'ailleurs, on comprend la condition sociale rien qu'à la manière dont elle décrit son mari.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de l'écrivain Shmuel Temeyer, qui nous parle de son coffret « Et la guerre est finie », prix Goncourt de la nouvelle en 2021, qui vient de paraître aux éditions Métropolis. Alors, il y a cet éternel débat hein, concernant la littérature juive. Qu'est-ce que ça signifie, une œuvre juive? Comme on peut s'interroger sur le cinéma juif, l'art juif, le théâtre juif. Mais est-ce que votre œuvre, vous la placez dans ce registre? Est-ce que vous définissez-vous une sorte de littérature juive ou israélienne?
Alors ça, c'est compliqué parce que, à l'évidence, je parle énormément des Juifs. Parce que ça m'est probablement plus facile de rentrer dans l'âme d'un Juif que dans l'âme d'un Chinois, probablement. Ça m'est difficile. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir une capacité d'empathie et de compréhension et de me mettre dans la peau de peuples différents. Donc, c'est un peu difficile. Bien sûr que je me considère comme un écrivain juif parce que c'est l'essentiel de mon boulot qui tourne autour de cette question, la question juive. Avec aussi, si je parle très peu de la Shoah, elle est en dessous de toutes les nouvelles, tout ce que j'ai écrit jusqu'à présent. Il y a la Shoah qui est derrière. Donc,
et la guerre est finie.
Mais bien sûr, il y a ça, parce que c'est pas un hasard que South Gans, qui est le héros récurrent de Great American Disaster, est un juif, et que la première chose qu'il va faire, c'est un kaddish. Alors, c'est vrai. Maintenant, est-ce que je suis un écrivain israélien? Je ne sais pas, je n'écris pas en hébreu. Je sais que j'essaie le plus possible, quand j'écris kibbutz, de donner l'impression que ça a été presque traduit de l'hébreu. Parce que, mais je veux aussi parler de la même chose avec The Great American Disaster. Je veux qu'on ait presque l'impression que c'était traduit de l'américain.
Bah, kibbutz, ça fait penser à Amos Oz. Ça fait penser à un autre kibboutznik qui fait des descriptions. Et c'est vrai que si on ne vous connaît pas, on peut imaginer que ça a d'abord été écrit en hébreu, puis traduit en français.
D'abord, c'est certainement pensé en hébreu, avant d'être écrit en français. Parce que ça a été vécu en hébreu. Parce que, oui, parce que c'était vécu en hébreu. C'est, donc, c'est parce que j'écris en français, parce que c'est une langue que je possède mieux et que, avec laquelle je peux travailler plus facilement, en tout cas avec beaucoup plus d'aisance que les autres langues. Mais oui, moi, je pense que j'ai écrit dans ma tête. Quand j'ai écrit le kibbutz, c'est pensé en hébreu, c'est écrit en français, mais je pense que The Great American Disaster, il est écrit en anglais, dans la langue du jazz, en plus de ça, parce que c'est un livre musical qui est accompagné de morceaux de jazz, parce que c'est une de mes passions aussi. Et puis, les grands express européens, bah, c'est bercé par tout ce que je sais de la littérature européenne. Ça va de Tchekhov jusqu'à Stendhal en passant par Flaubert, mais aussi des grands poètes comme Saba, Paul Celan. J'essaie de retrouver un peu toutes ces voix-là qui font l'Europe.
Alors si c'est de la littérature juive, c'est même de la littérature juive errante, voire itinérante, un peu à votre image. Est-ce que c'est plus facile, quand on voyage beaucoup, eh bien, de s'ancrer dans des descriptions de scènes de vie totalement éloignées les unes des autres ?
Bah oui, ancré, c'est peut-être pas. Bah oui, c'est provisoire, un peu comme un bateau dans une rade, dans un havre. Alors il pose l'ancre et après il pourra la relever. Parce que, au fond, l'idée générale, c'est que le nomadisme, qui m'a été imposé par la vie. Hein, certains de mes voyages ont été dictés par la vie, pas par des choix. Donc je me suis retrouvé dans des situations où, oui, c'était fin de compte bien. En fait, je n'ai pas trouvé mon enracinement. Je sais qu'Israël et le sionisme, c'est la volonté enfin de plonger très profondément des racines. Et en ça, peut-être que j'ai échoué. Parce que je suis un peu, comme on dit en hébreu, « etz shatul al-maim », un arbre planté dans l'eau, quoi, avec des racines flottantes. Alors, voilà, c'est plutôt comme ça que je me définirais, parce que je partage des sentiments d'amour. Là, par exemple, je me promenais ce matin dans Tel Aviv, aux petites heures du matin. C'était un sentiment d'amour extraordinaire, mais le même sentiment d'amour que je vais avoir bientôt quand je vais arriver à Genève, parce que c'est les paysages de mon enfance, c'est les Alpes. Voilà,
Vous êtes bien partout.
Oui, voilà, je crois que je suis bien partout, et si je suis mal à l'aise quelque part, ben j'essaie de ne pas y être. Alors, en tout cas, de m'évader.
En tout cas, il faut dire qu'au-delà du plaisir à vous lire, il y a le plaisir d'avoir entre ses mains cet objet, hein, qui est un joli coffret avec trois petits ouvrages en format poche, donc c'est extrêmement pratique. De jolies illustrations sur le dossier du coffret et sur la couverture de chacun des petits ouvrages. Et pour un prix séduisant, parce qu'il faut le dire, hein, c'est trois ouvrages, une trilogie, un coffret pour 30 euros. Est-ce qu'on le trouve facilement, ce coffret, d'autant plus maintenant que vous êtes Brigand Court.
Bon, je crois qu'en France métropolitaine, ça ne doit poser aucun problème, ni en Suisse, ni en Belgique. En Israël, je sais que c'est arrivé, puisqu'hier, j'étais à l'Institut français. Donc, je sais que c'est arrivé dans les librairies en Israël. Et puis, bon, c'est sur tous les sites de vente, hein, qu'on ne va pas citer, évidemment. Mais je crois que la diffusion a été bonne, même s'il faut souligner. Alors, c'est gentil d'avoir souligné l'illustration, parce que mon ami Sabedris, un immense peintre, qui a été, pour moi, c'était très important de travailler avec lui. Il recevait les nouvelles quasiment au fur et à mesure, il les illustrait, on essayait de trouver ensemble des idées, et je trouve qu'il a fait un travail merveilleux, comme d'habitude. Et puis, saluer aussi Métropolis, parce que c'est la première fois qu'une maison d'édition suisse, et surtout Marias, reprenait la maison Métropolis, qui avait une histoire. Et donc, c'était le premier ouvrage qui est publié, et c'est la première fois qu'une maison suisse reçoit le prix Goncourt. Donc, ici, les Israéliens se sont réjouis qu'un Israélien ait reçu le prix Goncourt. Les Suisses, maintenant, sont très contents de...
C'est l'avantage de l'itinérance. Est-ce que vous êtes déjà sur un nouveau projet d'écriture ?
Ah oui, là je suis sur un nouveau projet d'écriture qui est, donc je vous dis, ça me renvoie aux années de la Révolution russe et de la guerre civile, donc entre 1919 et 1922, d'un juif qui est dans le train blindé de Trotsky.
Eh bien, on a hâte déjà de savoir ce qu'il en ressortira. Alors, il y a une question classique, mais néanmoins difficile dans cette émission pour conclure, si en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs de la fréquence juive de lire votre roman. Qu'est-ce que vous leur diriez? Vos nouvelles, hein, qu'est-ce que vous leur diriez?
Je leur dirais, si vous avez envie de mini-roman, parce que c'est vraiment sous la forme d'un roman, c'est un début, un
Oui.
milieu, enfin, qui vont permettre de voyager aussi bien dans l'espace que dans le cœur des hommes et des femmes, alors je pense que ça peut être un voyage intéressant.
Et on ne peut pas dire mieux. En tout cas, merci infiniment, Shmuel Temeyer, d'avoir accepté de parler avec nous de votre actualité, la parution de ce coffret et La guerre est finie, qui vient de paraître chez Métropolis et qui a reçu le prix Goncourt de la nouvelle en 2021. Évidemment, on ne peut que recommander de vous lire et puis surtout d'offrir hein, ce joli coffret. Et puis, on espère vous retrouver très bientôt. Bonsoir.
Merci beaucoup, bonsoir. Au revoir.